Bonjour et bienvenue dans cette émission Les Marches de la Foi. Avec vous cette semaine, Pascal Dupré. Je voudrais vous partager quelques questions glanées lors de conférences d'experts ou auprès d'acteurs de terrain rencontrés dans des lieux d'engagement où les jeunes se passionnent, inventent un nouveau monde et où les manières de faire, de travailler sont très différentes de celles que nous, les aînés, nous avons connues et souvent nous déconcertent. J'ai suivi une formation au CERAS, formation animée par les jésuites, et ça m'a paru très intéressant de vous en parler. Je ferai ça de manière plus approfondie une autre fois. Mais déjà quelques points clés. Notre société paraît avoir un problème avec la jeunesse. Cette période est une période de... La jeunesse a changé, ce n'est plus une période de vie vécue avant de franchir des seuils qualifiant l'âge adulte. C'est une période de transition, de passage du domicile familial au domicile autonome, la transition vers la mise en couple, le temps entre la fin de la scolarité obligatoire et l'acquisition d'un emploi stable, une période d'apprentissage de la citoyenneté. Enfin, bon, l'autonomie et l'anticipation sont souvent vues comme l'aboutissement du processus, mais la réalité est très complexe. Le système éducatif se veut égalitaire, mais il est très sélectif. Et au-delà des discours qui affirment que les jeunes sont prioritaires, quand on regarde les chiffres, 63% des Français voient que les jeunes sont égoïstes, 53% les voient paresseux. Il y a près de 2 millions de jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Le taux de chômage est énorme, 24% en 2015. Et quand un jeune est en emploi, une fois sur deux, c'est dans un emploi précaire, en CDD ou en intérim. Donc un jeune sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ça n'est pas acceptable. Un jeune actif sur cinq est toujours en recherche d'emploi 3 ans après sa sortie du système éducatif. Au-delà des discours qui affirment que les jeunes sont prioritaires, que fait-on réellement ? N'a-t-on pas, dans les faits, accepté l'idée d'une génération sacrifiée ? Est-ce qu'on ne leur impose pas une sorte de bizutage social ? Ce qui se vit entre 16 et 30 ans est très violent. Alors, on pourrait revenir dessus, on y reviendra. Mais la question d'aujourd'hui, c'est à quoi rêvent les jeunes et comment ils s'engagent ? Et pour ce faire, je vais demander à Nathalie Rousseau du MEJ de nous parler un peu de ce qui se passe dans ce mouvement dans le diocèse de Chartres. Nathalie, pouvez-vous nous présenter un peu votre parcours ?
Eh bien oui, bonjour Pascal et bonjour aux éditeurs de Radio Grand Ciel. Alors avant d'être appelée comme responsable diocésaine du mouvement eucharistique des jeunes il y a 3 ans, j'ai eu la joie d'exercer pendant 6 années la belle mission d'animatrice en pastorale pour la pastorale des jeunes en Beauce.
Et maintenant tu es responsable du MEJ.
Voilà, responsable diocésaine du mouvement eucharistique des jeunes, voilà.
Tu peux dire un peu ce que c'est que ce mouvement ?
Alors, donc, le mouvement eucharistique des jeunes que nos auditeurs ont peut-être bien connu sous le nom de l'apostolat de la prière ou encore croisade eucharistique. Donc, ce mouvement existe depuis 1844. C'est un mouvement ignatien. Il veut former des chrétiens engagés dans l'Église, dans le monde, et plus particulièrement en valorisant les talents de chacun. Il permet aux jeunes de prendre des initiatives, de mener des actions de solidarité, tout cela à la manière d'Ignace, Ignace de Loyola.
Oui, tu peux dire, quand tu dis la manière d'Ignace, de quoi tu veux parler précisément ?
Eh bien, le mouvement propose une vie d'équipe, propose des temps forts, des camps, pour permettre aux jeunes de s'épanouir, donc, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre dans les divers domaines de leur vie, de s'ouvrir à Dieu dans leurs relations personnelles, de mieux comprendre la foi de l'Église, pour mieux en témoigner, pour mieux témoigner auprès des autres, auprès de leur génération, en particulier ceux qui les animent. Et puis, ce qui est plus spécifique à Ignace de Loyola, c'est apprendre à relire leur vie pour faire des choix en toute liberté.
Les jeunes que tu rencontres dans le mouvement, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent dans ce mouvement ? Qu'est-ce qui motive leur engagement ?
je crois qu'il y a, d'une part, l'effet bouche à oreille. Hein, ils s'invitent les uns les autres. C'est relayé par des initiatives paroissiales ou peut-être par des camarades au lycée, là, pour ce qui est plus spécifique des jeunes à partir de 16 ans. Je pense qu'en fait, ce qui est bon de souligner, c'est qu'au cœur de ce monde qui est troublé, qui est incertain, qui est violent, nous sommes invités, et les jeunes sont invités et sensibles aussi à cette perception qui est d'apprendre à repérer, à reconnaître le bon, le beau et le bien. C'est un petit peu ce qui est spécifique au MEJ, de repérer tout cela dans notre vie, mais aussi dans celle des autres. Et que c'est quelque chose... C'est une manière de faire et d'être qui les sensibilise et qui les intéresse. Je pense que ça peut faire partie des points principaux pourquoi ils viennent découvrir le MEJ.
Et toi qui, depuis longtemps, tu es en contact avec des jeunes, est-ce que tu sens aujourd'hui des évolutions, des différences avec ce que tu as repéré avant ?
Je crois que la recherche d'une vision positive de soi, des autres et du monde, c'est ce qui invite à la confiance. C'est ce qui ouvre un horizon large et qui permet aux jeunes de se projeter davantage dans l'avenir. Je pense que c'est une réalité dont on prend plus conscience aujourd'hui peut-être qu'avant, et que c'est au cœur des difficultés qu'on peut essayer de creuser et d'aller chercher le meilleur et l'essentiel pour avancer.
Et alors, dans cette recherche plus positive de soi, comment les adultes que vous êtes dans l'accompagnement du mouvement, comment vous vous positionnez ? Qu'est-ce que ça produit pour vous ?
Je pense que le cœur de la mission de l'accompagnateur, c'est d'être à la fois éducateur, animateur et accompagnateur pour donner aux jeunes les éléments, ce dont il peut avoir besoin pour grandir et pour devenir lui-même un adulte responsable. Que c'est toute la difficulté de la position de l'animateur. On n'est pas seulement animateur, on est en même temps éducateur et accompagnateur. D'accompagner les jeunes dans ce qu'ils ont à devenir, en fait. Je crois qu'en fait, c'est à mettre en lien avec ce que tu as signalé au début. C'est vrai que la manière de faire et de travailler des jeunes, elles sont différentes aujourd'hui et que souvent elles nous déconcertent. L'incroyable développement du numérique, bien sûr, n'est pas étranger à tout cela. Mais comme adultes, nous avons à les accompagner dans ces nouvelles manières de faire, peut-être à éveiller à certaines manières de faire plus que d'autres, mais aussi à les laisser expérimenter parce que personne d'autre qu'eux connaissent ce monde numérique qui est à la fois plein d'atouts.
Et les adultes, ils leur laissent la place dans l'organisation du mouvement ou dans la... comment ça se passe, cette intergénération ?
Alors, je crois que c'est un point de vigilance, c'est ce que nous essayons d'apporter. L'écoute bienveillante est très, très importante, est au cœur du MEJ. L'écoute les uns des autres, la prise de responsabilité, mettre en œuvre des projets, des actions d'équipe, des actions de solidarité. Là, les plus grands ont vécu une très, très belle action de solidarité l'an passé en partenariat avec le Secours catholique à Chartres. Et c'est un projet qu'ils ont choisi, décidé et mis en œuvre, alors accompagné par des adultes, mais... l'action d'équipe a été choisie et menée à bien par eux-mêmes.
Tu peux en dire un mot de ce projet ?
Alors oui, l'équipe des grands, des 16-18 ans, a participé pendant un trimestre, chaque samedi matin, à une permanence à la délégation du Secours catholique de Chartres pour se mettre au service d'un groupe de jeunes et d'adultes migrants. Pour leur servir un petit déjeuner, leur permettre de se restaurer, de se poser, d'échanger, de jouer également, et puis d'échanger sur leurs difficultés et sur leur réalité de jeunes. Et ça a été une expérience très très positive. Les jeunes ont beaucoup reçu de cette expérience, de cette action. Et ça a permis de beaux partages à la fois avec les jeunes migrants et puis après en équipe MEJ, en équipe locale.
La vie d'équipe locale, tu peux en dire quelques mots ?
Oui, alors chaque équipe se retrouve autour d'un animateur tous les 15 jours à 3 semaines autour de thèmes proposés par le mouvement. Il y a un thème d'année qui est commun à toutes les tranches d'âge au niveau national. Donc ils échangent à partir des propositions, aussi à partir de leur vie et de leurs préoccupations, à partir des événements du monde. Quand il y a un événement particulièrement marquant, on laisse de côté le thème d'année pour échanger, pour parler, pour s'exprimer, pour relire un petit peu tout cela. Je pense notamment aux événements de novembre dernier à Paris, les attentats. Et puis, il y a aussi des temps de rassemblement inter-équipe ou des temps forts un peu plus larges pour retrouver d'autres, pour échanger, pour faire la fête aussi, parce que c'est important de chanter et de partager avec d'autres des moments joyeux et heureux. C'est important. Les chants au MEJ tiennent une place particulière et privilégiée.
Ça, c'est très important pour les jeunes d'aujourd'hui, cet aspect convivialité, on va dire. Mais les thèmes d'année, tu dis qu'il y a un thème national. Ça leur va, ça ? C'est pas tellement dans la culture d'aujourd'hui. On n'aime pas trop avoir des choses qui sont un peu imposées de loin par l'institution. Comment ça se passe ?
Je crois que c'est reçu avec beaucoup de bienveillance. Notre équipe nationale au MEJ n'invente pas comme ça un thème d'année, mais le concocte en fonction de un petit peu des relectures et des remontées des animateurs, mais aussi des jeunes. Il y a un temps pour ça qui est prévu. Ça se passe en ce moment pour le thème d'année prochaine d'ailleurs. Et puis souvent le thème est très souvent collé aux réalités. Voilà, par exemple, le thème d'année, c'est du virtuel au réel, connecte-toi à l'essentiel. Donc on est bien dans l'actualité et dans le thème un petit peu de ce que tu as proposé aujourd'hui.
D'accord. Donc ça, il n'y a pas de difficulté à ce moment-là de l'intégrer parce que ça colle bien à leur réalité.
Tu sais, à leur réalité. Et puis en même temps, chaque animateur est aussi invité à prendre de la distance par rapport à ce qu'il est proposé s'il voit des résistances. On est avant tout là pour au service des jeunes et de leur croissance humaine et spirituelle, pas pour leur imposer quelque chose qui ne leur conviendrait pas.
Ouais. Tu sais déjà quel est le thème d'année prochaine ?
Et non, est en cours de réflexion. Actuellement, en ce moment, l'équipe nationale, ces jours-ci, se réunit.
Et l'équipe, elle se réunit. Et vous, en tant qu'équipe locale, vous avez des contacts, vous pouvez proposer des thèmes ou vous savez sur quoi on discute ?
Oui, en tant que responsable diocésain, nous sommes invités deux fois par an avec le Centre national, nos dirigeants, entre guillemets, ceux qui se disent être à notre service pour élever les besoins des jeunes aussi. Il y a des allers-retours entre nos responsables et le terrain.
Bon, écoute, merci beaucoup Nathalie pour cet échange et à bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir et merci à Nathalie qui nous a partagé son expérience et à Simon qui a assuré la technique de cette émission. Et à bientôt sur Radio Grand Ciel.